Chapitre 12. Le policier en uniforme soulève le ruban de signalisation et escorte la femme hors de la zone délimitée. Il marche le long de la façade du bâtiment et s'arrête 20 mètres plus loin devant une rangée de volets en aluminium. Le policier la saisit par le bras, mais elle se dégage. La poussière tourbillonne dans la lumière blanche du soleil d'août qui inonde le parking. Juna se dépêche de les rejoindre, informe le policier qu'il prend le relais et se retourne vers la femme. Ses grands yeux sont brillants et sa bouche pulpeuse tremble de peur. Elle est vêtue d'un jean, d'un coupe-vent blanc et d'une écharpe Burberry à carreaux. « Je m'appelle Juna Lina. Je suis inspecteur à la NOA et je ferai tout ce que je peux pour aider votre père. J'ai essayé de dire que... Attendez, je sais que vous avez peur. Et je vais vous écouter. Mais dites-moi d'abord votre nom. »
Nora, mais ça n'a aucune importance. Ils en ont après mon père. Ils sont trois. Et Ayas est un vieil homme.
Je comprends ce que vous dites, Nora. Mais vous pouvez m'expliquer ce qui s'est vraiment passé.
Ce matin, tout était comme d'habitude. J'étais au magasin avec mon père à écrire des pancartes, dit-elle en passant la main sur sa bouche. Et puis, les frères sont arrivés. Leur camionnette s'est arrêtée devant le magasin. Et papa m'a dit d'appeler la police et de sortir à l'arrière par le bureau à côté de la chambre froide.
Qui sont les frères?
Mon père faisait concurrence à leur père il y a 10 ans, et maintenant ils veulent tout récupérer. J'en connais un du collège. Il s'appelle Branco. C'était un type sympa, il faisait partie de l'équipe de foot que mon père entraînait.
Ils ont des antécédents criminels?
Je pense pas, mais ils lui ont envoyé des lettres de menace. Ils l'ont appelé la nuit. Ils ont même essayé d'aller au tribunal parce qu'il s'agit de beaucoup d'argent, de beaucoup de viande. Papa n'arrive même plus à suivre.
Ses larmes ont fait couler son eyeliner qui s'est logé dans les ridules sous ses yeux. Nora, vous devez rester à distance et écouter les policiers qui sont sur place, sinon vous allez rendre notre travail plus difficile, vous comprenez?
Elle acquiesce d'un signe de tête et se gratte le nez de ses doigts tremblants. C'est juste que j'ai tellement peur qu'il fasse du mal à mon père.
Je sais, mais maintenant je vais entrer et leur parler.
Vous allez entrer dans le magasin?
Juna soulève les rubalises bleues et blancs et passe devant le grand magasin de fruits et légumes Anderson Fruchtogrund. Devant l'entrée, 3 chaises en plastique sont posées autour d'une table sur laquelle trône une bouteille de bière remplie de mégots. Il la contourne, enjambe une clôture basse et informe ses collègues qu'il va entrer. Il longe la façade du magasin halal et frappe à la porte.
« Simon, je dois te parler, » dit-il en ouvrant la porte.
« Personne n'entre !» crie un homme à la voix rauque. « Calme-toi, veux juste parler un peu à Simon. » explique Juna en s'avançant, les mains au-dessus de la tête.
« C'est quoi ce bordel ?»
hurle un homme barbu équipé d'un fusil semi-automatique et posté à droite de l'entrée.
« T'entends pas ce qu'on te dit, putain ?»«
Si, mais j'ai pas le temps pour ça, » répond Juna. « Je dois trouver Simon. Ils m'ont dit qu'il était ici. » Juna évalue la situation. Les 5 personnes présentes dans le magasin sont à 2 doigts du carnage général. Seule la tension et la peur épargnent leur vie pour l'instant. Derrière le comptoir réfrigéré, à 15 mètres de là, Ayas, vêtu d'une blouse blanche, presse un couteau contre le cou de Branco. L'arme de Branco gît sur le banc ensanglanté. À droite de la porte, presque devant le comptoir, est posté l'homme barbu avec un Benelli M4 Super 90. Et il vise Ayas. À côté d'une armoire réfrigérée contenant des canettes de soda, des boissons énergisantes et des bouteilles d'eau, se tient Aaron, le collègue en uniforme. Il a un genou posé à terre, soutient son bras droit avec la main gauche et vise l'homme barbu avec son Sig Sauer. Au fond de la salle, à côté d'une petite table où sont posées une cafetière thermos à pompe et des tasses en plastique, un homme maigre avec une queue de cheval blonde fait les 100 pas avec un Glock 17 pointé sur le policier.
« Aaron, toi et Simon avez répondu à l'alerte. Vous êtes venus ici ensemble. »
poursuit Juna d'une voix calme.
« Il est derrière, je crois. »
répond Aaron, sans quitter le barbu des yeux.
« Ok. Il faut que je fasse un rapport à mes collègues. »
informe Juna sur un ton neutre.
« Bouge pas !» le prévient le blond d'une voix menaçante. « Je sors juste mon téléphone. Je vais tirer sur ton pote. Je vais tirer sur le flic. Je vais tirer sur... Du calme, Dane !»
crie Branko d'une voix étranglée. Juna sort lentement l'appareil de sa poche et appelle Manvir. L'atmosphère est électrique. Tous sont sur le point de perdre le contrôle. À travers des effluves de viande crue et de béton humide se détache une forte odeur de transpiration.
« Ici Manvir, j'écoute. Tu es au courant de la situation à Eurstar. Simon Bierke n'est pas dans le local. D'après son collègue, il se trouve à l'arrière du bâtiment.
« Putain ! Mais c'est qui Simon ?»
s'énerve le blond.
« Je vois ça avec l'équipe, » répond Manvir.
« Maintenant ça va péter, putain ! Maintenant ça va péter !»
grommelle le barbu, tout en fixant Ayas avec des yeux fous. Il semble extrêmement tendu. Son fusil tremble dans ses mains. Type d'arme contient 5 cartouches. Il serait improbable qu'il rate le vieil homme à cette distance.
Tout le monde m'écoute maintenant, dit Juna en glissant son téléphone dans sa poche. La situation est manifestement bloquée. Tous les trois, vous êtes frères. Pensez-y. Si quelqu'un tire accidentellement avec son arme, deux d'entre vous mourront, et le troisième sera condamné à la prison à vie.
« Ta gueule !»
crie le barbu. « Attends, si tu tires sur Ayas, il aura le temps d'égorger Branko, pendant que mon collègue te tirera dessus. »
explique Juna d'une voix calme.
« Et peut-être que Dane aura le temps de tirer avec son Glock et de blesser mon collègue avant que je le désarme. »
Des voix s'agitent à l'extérieur. Nora crie quelque chose d'une voix désespérée. Ayas tremble de plus belle. Un filet de sang s'écoule du couteau posé sur la gorge de Branko. Juna observe les lanières du rideau en PVC qui se balancent lentement devant la chambre froide, ainsi que les mains de Branko qui se reflètent dans le carrelage blanc du mur.
« Putain ! Branko saigne !»
hurle soudain le blond.
« Ça va, je vais bien, » lui répond Branko. « Je te jure, ça va, c'est pas... »« Maintenant, ça suffit, on y va !»
grogne le barbu en faisant un pas en avant.
« C'est juste une égratignure. C'était pas volontaire, » dit Juna d'un ton qui se veut rassurant.
« Et Ayas, fais attention avec ton couteau. Ta fille est dehors. » Elle dit qu'elle était à l'école avec Branko.
« Je sais, » répond le vieil homme. « Il était dans l'équipe de foot que tu entraînais. Et je sais, je suis désolé, j'étais juste de... »«
On s'en fout que tu sois désolé !»
rugit le barbu. Son doigt tremble sur la gâchette. Une goutte de sueur perle de son nez.
« Écoutez... » Je veux juste m'assurer que tout le monde comprend à quel point la situation est bloquée avant que je vous fasse une proposition.
Continue Juna.
Aucun de vous ne peut agir sans que toutes vos armes se mettent à tirer en même temps. Vous ne pouvez même pas me regarder. Vous devez continuer à viser. Vous pourrez donc facilement sortir mon arme de mon holster.
Fais pas ça!
Bugle le barbu.
T'es complètement cinglé ou quoi?
Aucun d'entre vous ne peut pointer son arme sur moi,
dit Juna en dégainant lentement son colt et en engageant une balle dans la chambre.
Ça peut pas arriver, chuchote Dane.
Branko a un hoquet et ferme les yeux un instant.
En fait, aucun de vous ne peut rien faire, poursuit Juna, alors que moi, je pourrais m'approcher et tirer sur n'importe lequel d'entre vous.
Mais il est fou!
Écoutez-moi. Continue, Juna.
On n'a pas beaucoup de temps. Mais j'aimerais régler cette histoire avant que le groupe d'intervention ne prenne l'endroit d'assaut.
Ah, putain ! Tu veux quoi ?
Hurle le barbu. J'ai cru comprendre qu'Ayas avait fait concurrence à votre père d'une manière tôt désagréable. Et que vous, j'ai travaillé plus dur, proteste le vieil homme. Et maintenant, vous trois, vous êtes venus tout reprendre. Mais ça ne marche pas comme ça. La seule chose qui va arriver, c'est que vous irez en prison.
Et alors ?
Dit le barbu en passant la langue sur ses lèvres. Le canon de son fusil heurte lourdement le comptoir en verre. Mais il y a une meilleure solution. Explique Jonah. Aaron, tu peux baisser ton arme.
Mais
fais ce que je te dis. Le regard du policier est empreint de panique lorsqu'il baisse son Sig Sauer. Les ventilateurs du congélateur se déclenchent et les bouteilles s'entrechoquent dans l'armoire réfrigérée. Et maintenant, Dane, fais la même chose.
Non,
répond le blond avec un sourire crispé. Tu peux au moins retirer ton doigt de la gâchette.
Ok, c'est bon, je le fais,
dit-il. Jonah se rapproche lentement de l'homme avec le fusil semi-automatique. Des graviers coincés dans la semelle de ses chaussures crissent contre le sol en béton. « Je veux que vous vous mettiez d'accord avec Ayas, » continue Jonah. « Il y a une très forte demande de viande halal. »«
Putain, qu'est-ce que tu crois ?»
l'interrompt le barbu. « Une plus forte demande que ce qu'Ayas peut fournir. » Il y aurait donc assez de travail pour tout le monde. Et j'ai vu qu'il y avait un local libre à proximité. C'est une très bonne adresse. Plus proche de l'hôtel.
Écoutez pas ces conneries!
Jonah brandit son Colt combat, enlève le chargeur, le fourre dans sa poche, puis baisse son arme. L'homme barbu tremble maintenant à cause de l'adrénaline. Il est incapable de mettre de côté son désir de vengeance. Il risque à tout moment de tirer. Vous pourriez le louer, poursuit Jonah. Comme ça, vous auriez un local. Et vous pourriez prendre les armoires de congélation et les bacs entreposés dehors. Ayas vous les donne, n'est-ce pas ?
Bien sûr. « Prenez-les !»
acquiesce le vieil homme. Le blond baisse son arme. Sa main tremble et ses joues sont rouges. L'homme barbu chuchote pour lui-même, serrant son arme si fort que les jointures de ses doigts ont blanchi. « Et vous pourriez mutualiser les transports, » propose Jonah en se dirigeant vers le comptoir. « Ayas !» Tu peux leur montrer les factures pour qu'ils puissent calculer le profit qu'ils feront si...
Au milieu de sa phrase, sans un regard sur le côté, Jonah balance un grand coup pour dévier le fusil du barbu pile à la seconde où le coup part. La détonation est assourdissante. Un essaim de balles frappe le néon et le plafond. Jonah se retourne et abat la crosse de son colt sur le front du barbu, puis s'empare du fusil de chasse et le retourne contre le blond. Une pluie de verre provenant du tube fluorescent du plafonnier se déverse sur eux. Le barbu bascule en arrière, se cogne la tête contre le mur et s'écroule sur le sol, la bouche ouverte et les yeux brillants. Le néon et la grille en aluminium se détachent du plafond et fracassent le comptoir, projetant des éclats de verre sur la viande. Le blond laisse tomber son arme, qu'Aaron repousse aussitôt d'un coup de pied avant de sortir les menottes. Ayas lâche son couteau, se détourne et fond en larmes. Le visage dans les mains. Branko met son bras autour de ses épaules pour tenter de le réconforter.